Je dis rien, je dis rien. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau retour d'XP. Retour d'XP consacré à Masks, A New Generation. Alors Masks, A New Generation, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle de Brendan Conway qui a été édité aux États-Unis par Macpa Games et qui a été traduit et édité en France par 500 Nuances de Geek. C'est un jeu de rôle motorisé par l'Apocalypse dans lequel il nous est proposé d'incarner des adolescents super-héroïques dans une ville remplie de super-héros. Les inspirations de ce jeu sont nombreuses, bien évidemment, mais mes préférées et celles qui me parlent le plus, ce sont les Teen Titans. Ou bien même un Young Justice, c'est-à-dire des super-héros adolescents qui doivent trouver leur place dans l'univers des super-héros, sachant que les générations précédentes sont encore vivantes. Ces générations sont au nombre de trois. La première, c'est la génération dorée, celle des super-héros qui se battent pour le bien, qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, mais qui ont une noblesse d'âme qui les rend très forts. Ensuite, nous avons la génération d'argent, qui, elle, se caractérise plutôt par des pouvoirs permettant de lutter contre des menaces venant de l'espace, où les menaces ne sont plus de lutter contre le petit criminel du coin, mais plutôt de sauver la planète. Et enfin, la troisième génération, c'est la génération de bronze, qui, elle, se caractérise par le fait d'utiliser tous les moyens pour parvenir à lutter contre le mal, même si il faut parfois pousser certaines portes qui les conduisent vers des domaines à la limite de la légalité, voire utilisant la violence. Alors les personnages que vous allez incarner appartiennent à la quatrième génération, à savoir celle de l'ère moderne. Elle se caractérise par le fait de chercher encore sa place parmi les trois autres générations, puisqu'effectivement, dans Halcyon City, ville dans laquelle vous allez jouer, les précédentes générations sont encore en place, ont encore de l'influence, et sont des adultes, là où vous, vous n'êtes que des adolescents. Cette ville d'Halcyon City, en fait, c'est plutôt une mégalopole, puisqu'en gros, vous allez avoir 10 millions d'habitants, des gratte-ciels de partout, et comme dans Buffy contre les vampires, toutes les menaces de super méchants vont débarquer dans Halcyon City. Ce qui signifie que la plupart des scénarios que vous allez pouvoir jouer sont centrés sur la ville et sur sa défense. À vous ensuite de décider quel type de menaces vous allez pouvoir mettre en place. Sachant que vous pouvez tout à fait jouer, j'ai envie de dire, au niveau street level, donc combattre plutôt des criminels humains, tout comme pouvoir vous battre contre un Galactus qui serait venu pour détruire la planète. Alors dans Mask, on est dans un jeu qui est propulsé par l'Apocalypse, ce qui signifie qu'il va y avoir des moves spécifiques, mais également des livrets de personnages. Parmi les moves de base, on va retrouver des choses assez classiques dans les jeux dérivés de l'Apocalypse, puisque vous allez pouvoir échanger des coups, vous allez pouvoir évaluer une situation, essayer de comprendre ce que l'autre a en tête, et des choses qui sont un peu plus caractéristiques du jeu, type le fait d'encaisser un coup puissant, mais également le fait de déchaîner ses pouvoirs. Alors les personnages vont être définis par des caractéristiques, au nombre de 5, qui ont des noms un peu particuliers puisque vous allez avoir la caractéristique dangereux, la caractéristique différent, la caractéristique sauveur, la caractéristique supérieure et la caractéristique normale. Alors la création de personnages s'effectue de manière très rapide, comme dans tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, ce qui est une des caractéristiques, puisque si nous prenons l'exemple de l'archétype l'étranger, c'est-à-dire un personnage qui ne vient pas de cette planète, on va avoir à définir son apparence, avec bien évidemment des propositions qui sont faites, mais également vous allez pouvoir définir son pouvoir, sachant que de base, il va savoir voler et il va être plutôt coriace. Et ensuite, vous allez pouvoir définir deux autres pouvoirs, tels que le fait de contrôler la luminosité, la densité, par exemple, avoir des métamorphoses radicales, etc. Et ça, ce sont des pouvoirs que vous maîtrisez. Donc de ce fait, en cours de jeu, sans avoir à réaliser de jet de dés, vous allez pouvoir le faire. Ensuite, vous allez devoir définir les différents niveaux de caractéristiques, allant de moins 2 à plus 3, ce qui est une petite différence puisque dans Apocalypse World, on peut aller de moins 3 à plus 3. Et vous allez définir l'histoire qu'a ce personnage avec la ville, mais également avec les autres personnages du groupe. Toujours pareil, on utilise un système de questions-réponses avec des questions orientées. Chaque livret a ses propres questions, et donc de ce fait, à la table, on a toujours une orientation des personnages en fonction des réponses qu'ils vont pouvoir donner. De plus, les questions sont forcément orientées en fonction de la nature du personnage, puisque par exemple, l'étranger, on va lui demander d'où il vient, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur Terre, etc., etc. Et donc, chaque personnage va pouvoir expliquer un peu de son background, un peu de ses liens avec les autres, et notamment dans la partie relation, puisque l'étranger, par exemple, a appris beaucoup de choses sur la planète Terre, par exemple, en passant du temps avec un des personnages. À vous de définir qui. La création de personnages est déjà faite. Bien sûr, je l'ai faite en manière accélérée, mais en gros, vous n'avez pas besoin de plus pour commencer à jouer. Évidemment, il est intéressant pour le MC de poser des questions sur les personnages, sur leurs interactions, en plus des questions qui sont déjà posées sur les livrets. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce jeu parmi les autres jeux de super-héros, mais aussi et surtout par rapport aux autres jeux propulsés par l'Apocalypse? Eh bien, il y a pas mal de choses qui le différencient des autres jeux propulsés par l'Apocalypse. La première des choses, c'est l'influence. Je vous ai dit, vous jouez des adolescents qui vont être soumis à l'autorité des adultes, qui sont des autres super-héros ayant déjà fait leurs preuves, étant reconnus, pouvant être plus puissants qu'eux. Et donc, les adultes dans cet univers ont de l'influence sur les adolescents, et notamment les adolescents que vous êtes. Comment ça se manifeste? Ben simplement, une personne ou un personnage ayant de l'influence sur vous, va pouvoir vous dire véritablement qui vous êtes, quelle est sa vision de votre personnage. Et pour conséquence, eh bien en fait, on va pouvoir moduler les différentes étiquettes dont on a parlé avant. Celles que je vous ai données comme étant dangereux, sauveur, normal, bizarre, etc. Qu'est-ce que ça a comme influence? Ben en fait, que votre personnage, vous l'avez dessiné et décidé au départ, en le voyant par exemple plutôt dangereux, et pas forcément être un personnage normal, banal. Et bien, si un adulte vient vous voir, et notamment un super-héros adulte vient vous voir, et vous explique qu'en fait, toutes les actions que vous faites, ben, un être humain normal pourrait les faire, et qu'en fait, vous n'êtes pas si dangereux que ça, vous êtes plutôt quelqu'un de normal, et bien, si il a de l'influence sur vous, il va pouvoir moduler vos étiquettes, et notamment diminuer ben, votre valeur de dangerosité et augmenter celle de normalité. Vous imaginez bien que si dans vos manœuvres spéciales, la caractéristique dangereux était importante, ben, le fait de se voir diminuer sa caractéristique ben, va vous impacter notamment dans la réalisation de vos actions. Et ça, c'est une des véritables innovations ou particularités de ce jeu, puisque tout au long de la partie, et je dis bien de la session de jeu, vos étiquettes vont pouvoir être modulées et votre personnage va non pas évoluer, mais en tout cas va se changer au fur et à mesure. Là, je vous ai donné un exemple où vous diminuez votre caractéristique, mais en fait, c'est toujours une question d'équilibre. Si vous diminuez une étiquette, vous en augmentez forcément une. Et de ce fait, votre personnage va évoluer au fur et à mesure. Bien évidemment, le fait qu'on vous dise qu'on voit votre personnage de telle et telle manière ne conduit pas forcément à accepter cette vision des choses. Et il y a un move spécial qui est le fait de refuser l'influence qui vous permet d'essayer de résister à cette vision qu'on peut avoir de vous. La conséquence, c'est que si vous réussissez votre jet, ben vous allez pouvoir rester tel que vous êtes. Si vous ratez votre jet, vous allez accepter bien évidemment cette influence et un petit retour de bâton en plus. Vous allez avoir également ce qu'on appelle des états émotionnels, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être effrayé, vous allez pouvoir être désespéré, démoralisé, coupable, furieux. En fonction de certaines actions, on va pouvoir vous imposer cette étiquette. Quel impact ça a? Ben en fait, ça va vous donner un malus de moins 2 pour certaines actions. Et la manière de perdre ce malus, eh bien en fait, ça va être de réaliser une action spéciale. Et notamment lorsque vous êtes furieux, il va falloir eh bien en fait, laisser parler votre colère et très souvent casser quelque chose d'important, faire du mal à l'autre, et ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, il s'est passé 1 heure, je suis calmé. Non, il va falloir que dans la fiction, vous laissiez éclater votre colère pour pouvoir vous calmer et donc perdre cet état furieux. Et pour chacun de ces états émotionnels, ce sera la même chose. Il faudra réaliser une action spéciale pour pouvoir, j'ai envie de dire, enlever ce malus. Alors vous incarnez certes des jeunes super-héros, mais vous incarnez surtout des jeunes super-héros en équipe, puisque vous allez créer votre groupe de super-héros qui va lutter contre certaines menaces. Et donc, dans certaines phases de jeu, notamment lorsqu'il va y avoir un affrontement avec un big boss, d'autres moves vont apparaître, ce qu'on appelle les manœuvres d'équipe. Comment ça se passe? Au début du combat, vous allez décider si un des personnages est le leader du groupe. Donc vous imaginez bien que si les joueurs ne se sont pas mis d'accord sur le fait d'avoir un leader, ça va conduire à des situations où ben, vous n'aurez pas de bonus. Mais également, il faudra voir si un des personnages a de l'influence sur tous les autres personnages, puisque l'influence n'est pas uniquement entre les adultes envers les adolescents, mais également entre les personnages, puisque vous pouvez tout à fait décider qu'un personnage a de l'influence sur vous, notamment parce que ses paroles vous importent. Et ça peut être fait de deux manières. Soit mécaniquement, parce que certaines conséquences d'un move vont vous dire que vous allez donner de l'influence sur votre personnage, ou même en respectant la fiction, si vous considérez qu'à un moment donné, un des personnages est important pour vous et son avis a de l'importance pour vous, et vous pouvez tout à fait lui donner de l'influence sur vous. Cette manœuvre de combat d'équipe va vous permettre effectivement de créer un pool de points en fonction donc du fait d'avoir un leader, d'avoir de l'influence sur les autres personnages, de vous être préparé, etc. Et va vous permettre durant le combat d'utiliser ces points pour modifier vos jets, pour les réussir, pour essayer de donner une action supplémentaire aux autres personnages, etc., etc. Une autre des particularités de ce jeu, notamment par rapport aux autres jeux de super-héros, c'est qu'ici, la question n'est pas de savoir si vous êtes le plus fort, mais plutôt quelle est votre place dans le groupe. Et de ce fait, lorsque vous utilisez vos pouvoirs, vous les utilisez. Il n'y a qu'un moment donné où, dans une des actions de base, vous avez le fait de déchaîner ces pouvoirs, où là, vous ne maîtriserez pas vos pouvoirs. Et ça change tout dans le jeu, puisque les différents PNJ et notamment les grands méchants vont être définis par des étiquettes et pas par des points de vie. Tout comme votre personnage ne présente pas de points de vie, c'est uniquement si il a trop d'étiquettes contre lui ou il va tomber KO, et je dis bien KO, c'est-à-dire qu'il va falloir et il va pouvoir se relever. Et bien pour les PNJ, c'est un peu la même chose, à savoir qu'il y a des étiquettes et qu'au fur et à mesure du combat, ben vous allez pouvoir amoindrir ce personnage. Ici, en tout cas dans la version qui est proposée, il n'est pas question de meurtre, il n'est pas question de tuer les méchants, mais bien de les neutraliser. À vous de voir comment vous allez faire, mais la question n'est pas de savoir si mon rayon laser va réussir à transpercer la cuirasse de ce robot géant, mais bien de quelle manière je vais y arriver, comment je vais le mettre en action, quitte à déchaîner mes pouvoirs, et surtout comment le groupe va réussir à s'en sortir. Et ça change tout, parce que je suis un adepte des comics et j'adore les jeux de super-héros, sauf que très souvent, ce qui moi me bloquait, c'était cette question d'échelle de super-pouvoir. Comment faire d'une part cohabiter Superman avec Batman et comment rendre les scénarios intéressants parce que la menace que j'allais mettre en face, en fait, pourrait être facilement éliminable par Superman ou bien être tellement puissante qu'en fait Batman n'aurait pas sa place. Ici, je ne me pose pas la question puisque je sais que le groupe sera en capacité de lutter, même si en mettant des PNJ ayant beaucoup d'étiquettes, ils peuvent se retrouver KO. Mais je m'interroge plutôt sur comment le groupe va interagir, qu'est-ce qui va les impacter, Comment ce super méchant va pouvoir mettre en place ses manœuvres de super méchant pour pourrir la vie du groupe? Et surtout, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quelle est la place de ces jeunes adolescents super-héros par rapport à leurs ancêtres ou au moins par rapport aux générations qui les précèdent. Je reconnais que le fait de ne pas avoir à réfléchir à l'échelle des pouvoirs, à leurs caractéristiques définissant l'étendue des pouvoirs, le diamètre d'un rayon laser, sa portée, etc., ben libère vachement d'esprit pour autre chose, et notamment pour la fiction. Ainsi, quand on joue, la préparation se fait de manière très rapide, puisqu'il va falloir notamment essayer de prévoir le méchant qui va être en place, mais aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les précédents épisodes. Pour vous y aider, le jeu vous propose de jouer une première scène qui est la rencontre de ce groupe de super-héros qui va affronter son premier méchant. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va permettre de commencer à nouer des liens. Et notamment de faire peut-être intervenir un super-héros d'une génération précédente qui pourra peut-être prendre sous son aile ce groupe de super-héros ou en tout cas les surveiller. Mais le jeu va commencer directement par la première menace et voir comment ce groupe va commencer à interagir et comment il va commencer à réaliser sa notion de groupe. Alors si on revient sur la préparation, on va commencer par la lecture de l'ouvrage. Personnellement, j'ai lu la VO, j'ai pas lu la VF, mais la VO est super agréable à lire. Franchement, c'est un régal. Elle se lit très facilement, elle est bourrée d'exemples, elle est hyper inspirante. Le background de la ville d'Alcyon City tient sur une dizaine de pages et déjà on a énormément d'idées. Et très franchement, ça m'a donné vraiment envie de jouer à ce jeu. Et donc je recommande la lecture au moins de la VO. La VF, je ne peux pas me prononcer puisque je ne l'ai pas lue. Mais vraiment, la lecture a été un plaisir, là où dans d'autres jeux, je reconnais que le plaisir n'est pas forcément là. Ensuite, en termes de préparation de scénario, en fait, on se retrouve dans des choses propulsées par l'apocalypse, c'est-à-dire avec quelque chose de très light. Très franchement, à chaque séance que j'ai pu faire, je pense que ma préparation devait tenir sur un format A8. Franchement, j'avais un super méchant, deux, trois étapes clés, et encore pas véritablement des étapes clés, mais plutôt des choses qui pourraient arriver. Bien évidemment, on construit aussi sur les précédentes séances, mais ça n'empêche pas d'avoir quelque chose de véritablement très léger. Alors bien sûr, on pourrait s'amuser à faire quelque chose de très complexe, de très scripté, mais ce qui m'a plu, c'est justement de me laisser porter par rapport aux actions des personnages, par rapport à ce qu'ils avaient créé, et surtout de voir où est-ce que ça nous menait. Maintenant, malgré le fait d'avoir vraiment apprécié la lecture de ce jeu, je me suis posé quand même pas mal de questions. Questions auxquelles on va tenter de répondre au cours du podcast et du débrief. Mais la première des choses, c'est que pour un jeu propulsé par l'apocalypse, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de sous-modules de règles. Puisque nous avons les moves de base avec les moves spécifiques de chaque personnage, mais nous avons aussi les moves qui appartiennent et apparaissent lorsque l'on a un combat en groupe. Puis on a aussi le fait d'avoir de l'influence ou pas sur les personnages, de gagner ou pas de l'influence sur les personnages. Mais on a également le fait d'avoir des états émotionnels que l'on va devoir appliquer pour réussir à perdre ses malus. Et aussi le fait de jouer sur les étiquettes. Parce que, d'une manière assez simple, quand je vous ai parlé du fait de changer les étiquettes parce qu'on avait de l'influence sur le personnage, on peut tout à fait aussi faire attention à ce que dit l'autre. Et donc, sans avoir à déclencher un move, il faut être très concentré sur ce que disent les personnes. Parce que, selon la manière dont ils le disent, on peut se retrouver avec le fait de vouloir dire à l'autre qui il est, sans forcément intentionnellement le vouloir, mais en interprétant les paroles qui ont été dites, dire au joueur, est-ce que tu n'as pas voulu lui dire ça et ça? Et donc, ça demande énormément de concentration en cours de partie, et donc, il a fallu se poser la question, de savoir est-ce que les joueurs allaient s'emparer de cette mécanique. Une autre des questions, c'était s'ils ne jouent pas avec l'influence et le fait de moduler les étiquettes des uns des autres, est-ce que le jeu tourne? Est-ce qu'on peut tout à fait s'en passer? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Une autre question a été de se dire, le jeu se veut positif, les illustrations le montrent, le contexte le montre, et on est plutôt sur quelque chose de très coloré. Mais est-ce que ce jeu peut être tout à fait jouable dans des situations beaucoup plus sombres, avec beaucoup plus de violence, avec des thèmes abordés beaucoup plus lourds, beaucoup plus durs? Et ça, c'était aussi une question qui m'intéressait. Mais pour y répondre, et vous allez le voir, il n'a pas été nécessaire de faire une seule partie, mais il a été nécessaire de faire 5 ou 6 parties avant de vous faire ce débrief qu'on vous propose aujourd'hui. Alors pour vous faire un résumé très rapide de la fiction qu'on a pu jouer, nous avions donc 3 super-héros présents à la table. D'abord, nous avions Doomfist, la brute, qui avait pour mentor Deadly Devil, un super-héros de l'âge de bronze. Nous avions également Bastion, qui était un transformé, sous la forme d'un robot autonome, ayant en lui certaines caractéristiques et composants dont on ne savait pas trop l'origine et qui étaient probablement un cœur atomique ou quelque chose comme ça. Et nous avions aussi Blackout, l'étranger, donc un super-héros venant d'une autre planète, qui était présent dans ce groupe. Alors on a fait une petite incartade par rapport aux règles du jeu, puisque normalement, il faut jouer la première scène de réunion de ces super-héros. Or, dans notre cas, le fait de réaliser des interactions, de définir les interactions, de répondre aux questions et de pouvoir discuter de leur passé a conduit au fait de décider de la première scène de réunion et de la voir discuter simplement. Et cette scène a conduit notamment à une deuxième incartade, à savoir que le groupe de super-héros a potentiellement tué le grand méchant lors de cette première confrontation. Alors je dis potentiellement, puisqu'en fait, un personnage similaire est apparu dans la ville d'Alcyon City comme étant le PDG d'une grande multinationale dédiée notamment à l'intelligence artificielle, aux composés, à la robotique et ce genre de choses. De ce fait, on s'est retrouvé dans une situation où les personnages ont cru avoir tué quelqu'un, puis se retrouvent dans une ville avec cette entité présente et qui en plus a des envies de conquérir la mairie d'Alcyon City de manière tout à fait légale. Lors du premier scénario, nos personnages sortant de l'école, puisque ce sont des adolescents, ont dû faire face à un incendie dans un laboratoire. Laboratoire qui, après avoir investigué à l'intérieur, s'est trouvé être dans les tréfonds de cette couverture, un laboratoire secret qui présentait un clone, en tout cas imparfait, de Doomfist. Les super-héros ont décidé de sortir ce clone de sa prison et de s'enfuir. Et de s'enfuir notamment avec le professeur qui réalisait les expériences sur ce clone. Dans le QG de nos super-héros, ce personnage s'est suicidé puisque il possédait une dent avec du cyanure à l'intérieur. Le super-héros, pour être tout à fait franc, s'étant complètement désintéressé de ce personnage en l'ayant mis dans la cave et plutôt s'occupant du clone, ce qui a laissé tout le temps au personnage de se suicider. Ainsi, il se retrouve avec un clone négatif de Doomfist, incomplet, puisque parlant comme un enfant assez peu évolué, et ont décidé de le confier à Deadly Devil, le mentor de Doomfist, qui appartient à une genre de Justice League. Par contre, leur envie d'en découdre avec le docteur Conrad, qui était donc le super méchant qu'ils avaient rencontrés dans une base sous-marine lors de leur premier affrontement étaient réels et ont commencé à vouloir réagir et interagir avec lui de manière officielle durant les déplacements de cet homme politique en campagne. Ils ont alors laissé plusieurs jours au docteur Conrad de se pavaner, notamment dans les hôpitaux, d'aller faire du public relation, et ont attendu le vendredi pour aller au match inaugural de football américain où le docteur Conrad allait prendre la parole. Cependant, au cours du discours du docteur Conrad, un super méchant, ou en tout cas un être doté de super pouvoirs électriques, est intervenu pour essayer de blesser le docteur Conrad. C'est à ce moment-là que la technologie de blackout, technologie extraterrestre, est intervenue, peut-être un peu trop bien, puisqu'ils ont fait un saut dans le futur d'à peu près 2 ans pour découvrir un futur apocalyptique avec des super-héros qu'ils connaissaient déjà, en grande partie robotisés, contrôlés et faisant la chasse aux super-héros. Doomfist a été obligé de tuer son mentor, qui était robotisé, et le flash-forward s'est interrompu là, les plongeant encore une fois dans ce match de foot américain avec ce super méchant qui essaye de blesser, voire de tuer le Dr. Conrad. Finalement, il décide de sauver le Dr. Conrad de cet être pour ne pas donner de raison supplémentaire au Dr. Conrad de poursuivre sa campagne électorale sur le mode « Les super-héros sont méchants ». Ce qui conduit en fait Doomfist à se retrouver avec de l'influence sur le Dr. Conrad et de décider d'arrêter le super méchant électrique. Finalement, il s'avère que c'est une adolescente, Electric Girl, qui ne maîtrise que partiellement ses pouvoirs et qui en veut réellement au Dr. Conrad, parce que, a priori, une de ses filiales aurait implanté un bras mécanique à sa grand-mère, un bras mécanique qui prendrait le contrôle de la pensée de sa grand-mère par moment. Notre groupe de super-héros a décidé d'aller voir cette grand-mère parfaitement gentille, qui est une super-héroïne de l'âge d'or, ayant combattu des nazis notamment, et qui décide de vouloir être gentille avec eux. Sauf que, effectivement, ce bras mécanique prend possession de la grand-mère et un combat s'ensuit. Décidant d'en savoir plus et notamment d'aller voir cette filiale, nos super-héros ont décidé d'investiguer le bâtiment, ou en tout cas d'essayer de trouver un moyen de rentrer à l'intérieur, puisque, a priori, tous les bras et autres membres cybernétiques implantés dans Halcyon City communiquent entre eux et communiquent vers un data center global. Ils décident donc de prévoir l'infiltration dans ce complexe pour détruire ce data center. Et la fiction s'arrête là pour l'instant. Pour moi, faire ce débrief de Mask, il était nécessaire qu'on joue donc plusieurs parties. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté chaque nouvelle mécanique à chaque nouvelle séance. Je trouvais que annoncer et surtout mettre en scène et en jeu toutes les mécaniques d'un seul coup au cours d'une partie n'aurait que très peu de sens. Et donc de ce fait, j'ai préféré faire plusieurs parties, amener petit à petit les différentes mécaniques en jeu pour que les joueurs se les approprient et vous faire un retour qui, moi, me semblait plus intéressant. Parce que sur un one shot, on peut avoir un avis, mais ce jeu, de mon point de vue, se joue plus en campagne qu'en one shot. Et donc, on a voulu jouer plusieurs parties, le nombre joue, et vous proposer un débrief en compagnie de Fish, de Sébastien et de Flo. J'espère que vous apprécierez ce débrief et puis à tout de suite après. Donc on vient de terminer notre partie de Mask en compagnie de Fish,
Salut.
en compagnie de Flo
Bah.
et en compagnie de Seb.
Salut. Pour que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux, et ça permet aussi de cibler le propos, quel type de JDR vous appréciez généralement? Alors, ne me faites pas une liste à la Prévert et me montrer toute l'expérience que vous avez. Fiche?
Donc moi je suis plutôt classique en fait hein, sur l'heroic fantasy principalement. Enfin, je suis quand même un gros fan de Donjons et Dragons. Bon, les versions plus récentes quand même, hein, à partir de la 3.5 du moins, Pathfinder, etc. White Wolf, je suis plus sur du jeu AD, a priori, contrairement à certains de mes confrères.
Donc ça, c'est pour Flo. Donc Flo.
Moi j'aime tout, hein. Après, ouais, puisque tu me tends la perche, voilà, j'aime bien
C'est vrai.
effectivement les jeux avec des systèmes minimalistes pour mettre en avant plutôt les histoires. Après, tu as dit pas de liste à la Prévert, donc voilà.
Ah mais
Suivant.
si tu veux en citer un ou deux, il n'y a pas de souci, hein,
Alors j'adore Ambre, bizarrement.
mais... Non, il n'y a pas de bizarrement vu que tu as mené
Depuis
le
qu'on fait tourner des jeux à base d'apocalypse, j'aime beaucoup aussi. Je trouve que
jeu.
c'est très très sympa comme système. Et bon, par extension, tout ce qui rebat un petit peu les cartes par rapport aux prérogatives du meneur de jeu et des joueurs, et qui plutôt distribue les aspects narratifs un peu plus sur les différents joueurs.
Parfait. Seb?
Oui, bah moi j'ai. C'est vrai que je trouve qu'il faut adapter en fait le système de jeu à ce à quoi on veut jouer. C'est vrai
C'est
que
vrai.
il y a des aspects tactiques dans le donjon qui sont intéressants. Puis après, en vieillissant, je vais aussi vers des choses qui sont plus simples maintenant. Des jeux où il y a des dés, mais pas forcément des chiffres dessus. Bon, Fate pour pas le nommer, ou d'autres choses. Mais effectivement, la simplicité, ça a du bon.
Oui, Fate, c'est très bien aussi, je trouve. Et après, je suis pas contre un bon vieux tactical RPG des familles où on jette des brouettes de dés aussi, hein, même si mon cœur va pas vers là en premier lieu. Voilà, je suis.
Alors, on est sur un jeu de rôle avec masque, donc propulsé par l'apocalypse, sur les super-héros.
Ouais.
Donc, on va le faire en deux temps, cette question. Quelle est votre expérience avec le système Apocalypse? Est-ce que vous y avez beaucoup joué? Est-ce que vous y avez très peu joué? Et dans le deuxième temps, quelle est votre expérience avec les jeux de super-héros ou les super-héros? Est-ce que vous avez plutôt une connexion, une connaissance via les comics, via des jeux de rôle, via les films, ou ce genre de choses? Seb?
Oui, moi ça va être assez rapide hein, puisque l'Apocalypse j'avais juste une petite expérience d'ailleurs avec toi hein, comme meneur de jeu où j'avais pas été franchement convaincu, mais c'était peut-être le thème général qui me parlait pas. Et donc là, bah, par contre, concernant les comics, là par contre j'ai une longue culture puisque j'en ai lu beaucoup beaucoup depuis très très longtemps, donc ça je connaissais plutôt bien. Et là du coup j'ai trouvé que ça collait plutôt pas mal. Donc là, bonne surprise.
Fiche.
La notion du Apocalypse, j'en ai joué qu'avec toi. Après, la liste des jeux complète, honnêtement, je me rappelle pas
Non,
des noms des
non, mais
jeux,
on
aucun intérêt.
commence à avoir une petite
Mais
expérience quand
bon, a
même.
priori, on en a fait quelques-uns. Bon, moi qui suis quand même un gros fan de post-apo, bon, c'est vrai que du coup, a priori, Apocalypse World et tout ça, c'était quand même bien dans mon thème, donc j'étais bien content et le système colle vraiment bien en plus avec le jeu. Que je regrette qu'on n'ait pas rejoué depuis d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Pardon, c'est trop facile.
Non, non, mais j'en prends note.
Après, par rapport aux super-héros de manière générale, moi j'ai une culture qui est relativement, entre guillemets, basique. J'ai les bases, j'ai lu un peu de comics, c'était surtout principalement jeux vidéo que j'ai acquis ma culture sur les super-héros. Plus que sur du support papier de toute façon. Mais du coup, ça m'intéresse quand même, et ça m'intéressait quand même de tester un jeu, en plus propulsé par le système Apocalypse sur les super-héros.
Flo?
Ben, idem, en fait, j'ai pas mal joué à des systèmes propulsés par l'Apocalypse, mais exclusivement avec toi. C'est un système qui me plaît pas mal. Ça me fait un peu de l'œil par rapport au fait de maîtriser sur des jeux propulsés par l'Apocalypse, justement. Et sinon, pour la thématique super-héros, c'était pas gagné vis-à-vis de Mask, en tout cas. J'ai pas mal de contre-exemples, justement, où des JDR accès super-héros m'ont pas beaucoup plu. Et là, a priori, c'était pas mal. Sinon, par rapport à ma culture sur les comics et tout ça, enfin, très légère, on va dire. Bon, après, c'est difficile de passer à côté, étant donné qu'Hollywood nous abreuve de ça depuis quelques années. Bon, après, j'en ai quelques-uns papier, quand même. Je suis pas non plus très féru de ça. Mais ça me plaît.
Ok. On va passer sur la partie feuille de perso. Comment vous avez trouvé ces feuilles de personnages?
Oui.
Fiche.
De mon côté, bon, effectivement, la feuille est tout à fait lisible, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est en français, donc c'est cool.
Effectivement, on a joué avec les versions françaises éditées par 500 Nuances de Geek.
C'est quand même un point positif, il faut le dire. Il y a énormément quand même d'informations pour orienter le perso, le roleplay du perso, etc. Notamment au niveau pouvoir, apparence. Donc c'est plutôt sympa si on n'a pas trop d'idées sur qu'est-ce qu'on doit créer comme personnage ou voilà quel type de super-héros on souhaite faire. Donc c'est plutôt bien représenté, je trouve. Et après, la partie plus derrière avec les stats, etc. Bon, c'est relativement simple pour qui a fait un petit peu de jeu de rôle. Il y a que 5 stats différentes au final, quelques manœuvres spéciales qu'on peut sélectionner. Donc de ce côté-là, bon, je pense que c'est pas trop difficile d'accès, même pour un gros féru de jeu de rôle voilà, quelqu'un qui en a jamais fait, je pense que ça reste assez accessible. Et bon, la petite partie d'histoire pour tenter encore plus le personnage. Mais ouais, a priori que du positif, je pense, pour moi, sur la feuille de perso.
Flo?
Bah en fait, c'est des livrets, ce sont des livrets type Apocalypse, donc en fait, on se sent comme dans des chaussons. Si on a déjà joué à un jeu motorisé de cette façon-là, on retrouve exactement voilà les systèmes de move et les livrets qui sont très archétypaux et qui permettent quand même de customiser un petit peu son archétype pour le faire aller vers ce qu'on souhaite jouer, quoi. Donc ensuite en termes de lisibilité, etc. Bon, c'est bien fait, voilà, c'est efficace.
Ça aide quelque chose?
Oui, je vais pas reprendre ce qu'ont dit mes deux collègues. Hein. C'est très lisible, ce qui est assez étonnant par rapport à d'autres jeux de rôle. Il y a très très peu de choses à écrire. C'est assez remarquable puisqu'en fait tout est déjà déterminé. Alors on entoure, on coche. Donc c'est vrai qu'en fait si on a une idée précise du personnage qu'on veut jouer, honnêtement la création du personnage c'est un temps, c'est epsilon quoi. C'est fait très très vite. Donc ça, c'est un gros avantage. Hein. Après, au niveau, on en discutera peut-être après, concernant la souplesse, il faut essayer de faire coller l'idée que l'on a avec l'archétype qui est proposé. Bon, ça, c'est vrai que moi, par exemple, c'est un truc que j'aime pas trop, l'archétype, mais bon, là, il se trouve que ça marche plutôt pas mal.
Et le fait que de la feuille soit sur un recto verso, est-ce que ça vous a posé un souci ou pas? Parce que on a testé il y a pas longtemps Libreté sur un autre podcast où effectivement tous les moves et tout tenait sur une seule face et donc on avait l'information directement. Est-ce que là le fait qu'elle soit recto verso, est-ce que ça peut poser des problèmes ou est-ce que finalement il y a une face que vous utilisez plus que l'autre?
C'est pinaillé. Hein. Ouais, là, franchement, moi je pense pas que ce soit vraiment un gros problème technique de retourner de temps en temps la page. Bon, ouais. c'est pas très gênant dans la dynamique du jeu. Bon, c'est vrai que. Finalement, le seul truc sur lequel tu vas revenir sur la première partie, c'est plutôt le potentiel que tu vas cocher, voilà, quand tu rates ton jet, ou la progression éventuellement. Mais bon, principalement, on va quand même utiliser le verso avec le reste, quoi. Donc, on va pas spécialement revenir souvent sur la première page. Donc, je pense, oui, comme dit Flo, je pense que c'est un peu du pinaillage, c'est pas trop grave.
Alors, le jeu propose 10 archétypes différents. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement celui que vous avez joué?
Non.
Merci Fish.
Tu ne t'y attendais pas, celle-là.
Question suivante.
On te l'a jamais faite. Alors, je vais commencer par moi.
Alors, Fish quand même.
Ouais, Fish quand même, ouais. Donc, moi, j'ai joué de l'archétype de la brute. Donc, qui est, comme son nom l'indique, un personnage très fin. Donc, c'est plutôt orienté pour jouer un personnage type, entre guillemets, combat corps à corps, qui est plus, voilà, axé sur la force surhumaine, la résistance, combat. Voilà. On s'est clairement noté sur la feuille, hein, doté d'une force incroyable, surhumainement coriace, combattant hors pair. Ouais, c'est plus orienté là-dessus. Au niveau du personnage, donc notamment des manœuvres spéciales, clairement c'est orienté pour faire des trous dans les murs, hein, faut dire ce qui est. Après, c'est pas obligé. Bon, moi je l'ai joué un petit peu comme un bourrin décérébré, mais c'est pas, je pense, obligé de le... Ne rigolez pas tous en même temps. C'est pas forcément obligé de le jouer comme ça, je pense. Hein.
Surtout que c'est pas ma vision de ce que j'ai vu dans la fiction. Tu l'as pas joué
en oui, non, décérébré en plus, quand même. Non, en, plus. En plus, j'ai été gentil. Oh, bah, il y a eu des passages un peu... Ouais, si, monter le building à coups de poing dans les murs,
ça, c'était pas très fin. C'est pas
fin. Voilà, mais c'est vrai qu'après, le reste, de manière générale, ça allait encore.
T'étais plus dans « je suis sûr d'être fort » et donc...
Oui, c'est ça. Donc je peux le jouer à la provocation et voilà. Ça passe, effectivement. Après, il y a un côté sur le personnage, ce qu'ils appellent la partie cœur de brute, où en fait, il y a un côté un peu... et c'est là la relation, bon, ça on en parlera après, je pense, c'est la relation avec les autres persos, où c'est le côté un peu cœur de guimauve, où voilà, il y a le côté « je suis brute, mais en fait, je suis quelqu'un de gentil, dans le fond ». Mais bon, a priori, le ressenti général était que c'est un perso sympa à jouer.
D'accord. Flo ?
Donc moi, c'était l'archétype du transformé. Donc c'est par exemple la chose des Quatre Fantastiques, hein, le super-héros dont les pouvoirs se voient, lui confèrent une apparence très anormale en fait. Voilà. Donc et avec tout le gameplay axé là-dessus en fait. Bon, et sachant que j'ai en plus de ça un petit peu tordu l'archétype pour le faire converger vers l'idée que j'avais, qui était un personnage robotique. A priori, l'archétype était assez sympa aussi à jouer. Il offre pas mal d'options sympas. Bon, je sais pas si tu...
Ben vas-y, dis-nous.
En fait, c'est pas vraiment propre à cet archétype-là en particulier, mais j'ai bien aimé que la thématique... Alors après, on y reviendra peut-être plus tard. J'ai bien aimé le fait que un des centres d'intérêt, enfin, du jeu soit axé plus sur le fait que ce sont des super-héros adolescents avec les rapports justement aux adultes, hein, des personnalités pas encore finalisées, on va dire, et qui essaient de s'imposer et tout ça. Et ça ressortait pas mal sur cet archétype-ci, justement, où en fait le personnage est en souffrance d'être anormal et considéré anormal par les adultes et par la société, et essayer de se construire là-dedans, en fait.
Seb ?
Oui, moi j'ai joué donc l'archétype qui s'appelle l'étranger, ou l'étranger, le plus connu, hein, c'est Superman, c'est-à-dire c'est un extraterrestre. Il vient sur Terre. Bon, évidemment, comme il est différent, comme il est étranger, il a des pouvoirs spéciaux. Alors l'intérêt, c'est que, justement, moi je voulais justement déjà jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire c'est un adolescent, il n'est pas bien intégré dans la société, mais en plus, c'est un alien. Alors là, pour le coup, il est vraiment à part. Et donc c'est très intéressant parce qu'il y a une grosse variété de pouvoirs. Il peut voler, il contrôle la lumière, il émet des phéromones. Il y a aussi des aspects liés à la technologie que j'ai choisi, hein, puisqu'on a un choix de manœuvre à faire. Et donc, ça donnait un personnage qui était très polyvalent et très varié, avec ce lien vers la civilisation extraterrestre, en plus, qu'on pouvait exploiter pendant le jeu. Donc plutôt content de mon choix.
Alors, sur les moves qu'on peut réaliser, aussi bien les moves communs que les moves spéciaux. Vous les avez trouvés comment ? Vous les avez trouvés adaptés en fait au jeu ? Ils vous ont semblé suffisants ? Ou alors vous vous êtes senti contraint ou en tout cas avoir une certaine limite dans vos actions ?
Pour ma part, moi je trouve que ça couvrait plutôt bien. Enfin, à chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, a priori, on n'a pas été restreint par le système. T'as su, toi, t'adapter en tant que MJ pour nous proposer la solution, de toute façon. Donc je pense que t'as pas été bloqué non plus par une manœuvre qui manquerait, par exemple, ou quelque chose comme ça. Après, c'est vrai, comme on a dit un petit peu avant, qu'on a les manœuvres spéciales pour chaque archétype, donc ils peuvent en plus débloquer potentiellement d'autres options pour résoudre les scènes. Donc je pense que ça fait à peu près le tour. Bon, après, on n'a pas pu, du coup, passer dans la case manœuvre d'adulte, puisqu'on était que dans la partie manœuvre de base. Mais bon, je pense pas que ça change fondamentalement le jeu, quoi.
Flo ?
Moi, j'ai trouvé ça bien adapté. Bon, c'est pas une caractéristique propre à ce jeu-ci, mais à tous les jeux motorisé par l'apocalypse. J'aime bien le fait que sur certains résultats de ces moves ou manœuvres soit proposé, le fait que c'est le joueur qui décrit la finalité de la scène, en fait. Donc, dans une espèce de narration, justement, qui est partagée, du coup. Et sinon, oui, je me suis pas senti contraint ou quoi que ce soit. Non, c'est assez adapté au thème et aux actions qu'on est supposé faire dans le jeu.
Seb?
Oui, c'est suffisamment souple pour qu'on puisse... On n'est pas bridé, voilà, on n'est pas gêné. Même si on a des personnages qui sont pas des super-héros d'échelle cosmique, on peut faire beaucoup de choses. Après, les manœuvres, bon, dans mon cas précis, c'est très inégal. Il y en a qui m'ont servi très, très, très souvent, puis d'autres, finalement, qui sont un peu sous-utilisés. Bon, mais ça, je pense que ça dépend des scénarios, ça dépend de ce qui se passe en face. Donc, voilà, c'est difficile de généraliser.
Alors, comme le podcast est super bien préparé, j'ai sauté deux questions, bien sûr. Donc...
si c'est que ça.
Donc, on revient en arrière.
On va revenir en arrière.
Tu feras du montage, c'est pas grave.
Voilà.
Puisque vous nous avez présenté vos archétypes joués, pourquoi vous les avez choisis, justement, par rapport aux autres archétypes qu'il pouvait y avoir de disponibles, en fait?
Il me semble que je l'avais choisi au hasard, personnellement. Après, la première partie date
d'il y a probable.
Quelques mois, donc je me souviens pas. Mais il me semble que parmi les quelques qui restaient en dernier, j'avais pris un peu au hasard. Donc je saurais pas... Bon.
Pour toi, Flo?
Ah oui, alors là, pour le coup, comme vient de dire Fish, on en est à la 4e ou 5e session. Du coup, ça fait quelques mois qu'a eu lieu la première, et je saurais pas dire ce qui me passait par la tête ce jour-là. j'ai choisi parce que en fonction des autres et puis de ce que je voulais faire cette soirée-là, quoi. Mm. Non, je saurais pas dire mieux.
Oui, ben moi j'étais en transe parce que j'étais très content de jouer un jeu de super-héros, ce qui m'arrive très peu souvent. Donc j'avais une idée extrêmement précise de ce que je voulais jouer. J'étais arrivé avec un historique long comme le bras. Et donc, en fait, le premier truc, là, j'ai vu les feuilles qui étaient étalées devant moi, j'ai vu ça, et je me suis dit, c'est ça qui va coller. Donc, moi, par contre, c'est pas comme mes deux collègues, j'ai sauté dessus pour choisir.
D'accord. Donc, c'était vraiment par affinité et par...
Oui, complètement.
Et alors, justement, vu que t'es arrivé avec une idée hyper précise en tête, ça fait la super transition avec le fait d'avoir des archétypes. Est-ce que ils sont suffisamment souples pour t'avoir permis de jouer ce que t'avais envie, ou est-ce que finalement, t'as dû... quand même faire le deuil de certaines choses, parce qu'en fait, tu joues sur un côté archétypal, et donc t'as pas pu l'enrichir comme toi t'aurais voulu et ce que t'avais en tête.
Bah, j'ai un peu triché. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Je pense que t'as été suffisamment souple pour qu'on puisse sans forcément tricher, mais bon, effectivement, j'ai un peu mélangé, je pense, l'étranger. Je crois qu'il y a une autre archétype qui fait appel à la technologie, c'est ça?
Oui, bah, t'as un qui est le Nova, qui est... voilà. Pas forcément technologique, mais qui est une puissance pure.
D'accord. Voilà. Donc, inconsciemment ou consciemment, je pense qu'on a un peu mixé deux archétypes, et finalement, j'ai pas été gêné ce que je voulais faire avec ce personnage. Y a pas de problème. Donc, c'est des archétypes qui sont suffisamment larges pour qu'on puisse trouver son bonheur.
Flo, toi, est-ce que l'archétype t'a semblé contraignant, même si t'étais parti?
Non, disons que... si, ça l'aurait peut-être été, mais j'ai complètement tordu le cou du truc, et bon, comme tu l'as gentiment autorisé, voilà. Moi, j'avais une lecture du comics Top 10 en tête, en fait, avec des thématiques autour des robots et des IA et tout ça, donc j'avais envie de jouer ça. Et bon, c'est l'archétype du transformé. L'apparence monstrueuse, anormale, etc., qui se prêtait le mieux pour jouer un espèce de robot humanoïde, et le feuillet a permis de faire ça très facilement. Hein.
Pourquoi, Fiche?
Ben moi, contrairement à mes deux collègues qui font du hors-piste, je suis resté dans les clous. Comme je te dis, vu que j'avais, je pense, à peu près choisi au hasard, j'avais pas eu vraiment une idée précise de ce que je voulais faire, donc j'ai beaucoup suivi la feuille de perso et essayé de rester au maximum et coller au maximum à ce que ça proposait.
Mais tu t'es senti limité, justement, ou pas?
Non. Au final, non, parce que du coup, ça permet quand même assez de liberté, que ce soit vis-à-vis des étiquettes ou vis-à-vis de l'apparence, etc. Si t'as pas envie de te prendre la tête, comme ce que disait Sébastien au début, tu coches des cases, tu suis un peu ce qu'il te propose, et puis tu t'orientes, puis après tu t'imagines comme tous les jeux de rôle, hein, le perso dans ta tête, quoi. Mais donc ça m'a pas bloqué spécialement par rapport à l'idée que j'aurais pu me faire d'un personnage un peu en force brute, quoi.
En fait, les livrets sont assez bien faits, je trouve, dans la mesure où ils sont pas très descriptifs. Ils sont assez synthétiques dans la description. C'est plus des amorces, en fait. Et derrière, on peut y plaquer plein de choses différentes.
Ça reste permissif.
Voilà, mais c'est plus dans l'idée de donner des idées, justement, plutôt que de décrire de A à Z un archétype de personnage, quoi. En fait, c'est plus un support de projection, je trouve. Et bah, encore une fois, je vais faire la... J'ai pas d'action, hein, pour le système Apocalypse, hein, mais enfin en général les jeux qui sont autorisés par l'Apocalypse, les feuillets, c'est toujours un peu comme ça. C'est quand même assez, ça permet une grosse latitude.
Ouais. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'on en a joué pas mal.
En fait, là, c'est rigoureusement l'antithèse de Mutant et Mastermind, ou qui est un jeu de super-héros où tout est dimensionné au millimètre près et on choisit chaque pouvoir avec beaucoup de précision, avec des arbres de choix, etc. Bon. Vous me regardez des gros yeux, peut-être vous y avez jamais joué.
Non, mais ça me plairait bien d'y jouer à ça. Moi.
Voilà, c'est rigoureusement le contraire. Voilà. Donc, moi, Mutant Mastermind, je trouve que c'est un super jeu. Et là, je trouve qu'on s'est régalé aussi. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas la même façon de jouer. Voilà, c'est tout.
Cool. Quand est-ce qu'on joue?
Il faut me demander, gentiment.
Gentiment.
Voilà, c'est une grosse difficulté pour toi.
Est-ce que c'est pas un jeu, justement, où on passerait notre temps à se faire chier sur des règles compliquées plutôt qu'à jouer?
Les règles de résolution sont très simples. Par contre, la création du personnage, étant donné qu'il y a 200 pages en fait de choix de pouvoir, ça peut être interminable.
Ah, c'est classe.
Voilà. Donc, il vaut mieux venir avec une idée. Si tu viens sans idée, ça peut être long. Voilà, c'est ça.
Alors, justement, en comparaison aux autres jeux ou aux autres univers de comics, mais bon, là, on va peut-être essayer de se focaliser sur des jeux. C'est quoi la particularité de ce jeu, Mask, par rapport aux autres?
Joker, parce que des jeux super-héros, je me rappelle pas en avoir fait... Enfin, si, je me rappelle en avoir fait un autre.
Oui, pareil.
Avec toi. Celui où on avait dessiné notre perso et tout, je sais plus comment il s'appelait. Voilà, qui était rigolo, comme, mais bon, qui était très simpliste, pour le coup.
Ah oui.
Voilà.
Pour un one-shot.
Oui, plus. Mais par rapport à d'autres jeux axés super-héros, tu veux dire?
Oui, oui, oui.
Il y a Seb qui va te répondre, puisque a priori, il en connaît un bien, mais moi non.
Enfin, moi, je vois une différence évidente, mais tu vas peut-être me contredire, parce qu'on a fait... C'est que là, en fait, il n'y a pas de background. Hein. En tout cas, on l'a créé un peu comme ça, en discutant entre nous, et notamment les relations entre les personnages, l'historique, en fait, comment l'équipe s'est constituée, etc., etc., même le monde.
Hein, c'est le fait. Principe. Justement.
Vas-y, voilà. Flo, dis-le.
Oui, oui. Non, mais c'est tout à fait.
C'est pour ça que c'est mieux.
C'est le principe, mais justement, d'habitude, effectivement, dans les jeux de super-héros, alors ceux qui sont sous licence Marvel ou DC, bon, mais là, il n'y a rien à inventer, hein. Tout est déjà bétonné. Et même les jeux qui sont pas sous licence, en fait, il y a un cadre qui est déjà défini.
Alors, rien à inventer, tout est bétonné.
Oui.
Ça vaut à condition que les références soient partagées dans le groupe.
Tout à fait.
Et justement, là, la force du truc, c'est que bah, les références, elles sont communes, puisqu'on les construit en séance sur la première partie, en fait.
Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que là, le fait que ça ait, la mayonnaise ait aussi bien marché, et qu'on ait joué plusieurs fois, et qu'on se soit régalé, c'est aussi parce que, mine de rien, on partageait quand même, pour partie, des choses en commun.
Bien sûr.
On connaissait les choses. On met quelqu'un autour de la table qui connaît rien à rien aux comics.
Alors, oui, ça va être très difficile par les temps qui courent.
Bah, c'est assez rare quand même.
Oui, c'est assez rare, mais on avait de temps en temps, on avait des réflexes, on avait des comportements. On dit oh, c'est du comics. Ben oui, bien sûr, parce qu'on sait comment on va réagir. Mm-hmm. Les phases un peu d'introspection, les discussions interminables, bon, entrecoupées de scènes d'action, ça c'est vraiment du comics. C'est vraiment ça. Donc je pense que là, la mayonnaise a bien pris pour ça. Il y a d'autres raisons. Hein. Le jeu est bien aussi. Mais bon.
Oui, mais je partage cet avis. Effectivement, sur le livre de base, la partie, on va dire, background, fait à peu près une dizaine de pages max, et 10 pages très larges et très lâches, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a fait un point au départ de la première session, et effectivement, après, derrière, on a créé notre propre background pour avoir, effectivement, cette culture commune et cet univers commun, et sans avoir à 20 ans de connaissance de l'univers Marvel ou DC, et ce genre de choses pour pouvoir jouer, quoi. que c'est vrai que ça a été un point fort, je pense, effectivement, de partager ensemble sur l'univers et après le faire évoluer tous ensemble. Et au-delà de sa particularité, pour vous, qu'est-ce qui était important dans le jeu? C'était quoi les enjeux de ce jeu de rôle, justement?
C'est quand même assez centré sur nous. L'intrigue est quand même assez réactive par rapport aux orientations qu'on impulse, nous. C'est le principe.
Oui, c'est à cause du système.
Le caractère centered, voilà. Et du coup, comme il y a quand même un accent qui est mis sur l'aspect adolescent, teen movie, le fait que ce sont des super-héros en devenir et qui cherchent à s'affirmer, voilà, enfin c'est quand même un ressort qui est assez, enfin il est pas mal ressorti dans les quelques parties qu'on a faites. Donc s'il y avait un thème qui se dégageait, ce serait celui-ci a priori, plus que la course à la puissance. Et puis après il y a l'intrigue en elle-même. Ça, par contre, ça, c'est pas propre au jeu, c'est propre au setting que t'as mis en place avec nous.
Et puis en plus, la course à la puissance, on est vite bloqué justement du fait de pas être des adultes dans le monde. Dès que t'as besoin d'eux, ils te prennent pas au sérieux forcément, puisque eux sont des adultes et toi t'es qu'un ado. T'as beau être un super, t'es un ado, donc t'as jamais raison face à eux, donc ils ont de l'influence envers toi. Ouais. Donc forcément, ça amène des situations comme ça. Mais c'est ce qui est bien aussi du coup. C'est ce qui permet d'avoir un cadre au moins autour de la zone de jeu, quoi.
Et en fait,
de pas être tout puissant et de pouvoir faire ce que tu veux n'importe comment. Mmh. Mmh. Ce qui pourrait vite arriver si on jouait des adultes avec le même genre de choses.
Tout à fait.
Du coup.
Ouais. Après, j'ai l'impression Flo. Que comme, enfin, je me suis personnellement pas du tout senti bridé au niveau puissance justement. Donc la puissance, en quelque sorte, on en a déjà pas mal, quoi. Du coup, la marge de progression, justement, elle est sur la maturité des persos. Mmh. Et donc, c'était voilà l'intérêt de jouer à un robot de 4 ans d'âge mental avec des gatling laser. Enfin, pas laser, peu importe.
Seb, pour toi?
Non, c'était comme a dit Fish, c'est vrai que le fait de jouer, c'était un peu antinomique, ça, de jouer à la fois des adolescents, donc qui étaient finalement dans une société où ils sont pas intégrés, et puis d'un autre côté disposer de personnages qui virtuellement pouvaient faire beaucoup de choses. Donc l'opposition entre les deux, c'était finalement plus intéressant ça que d'avoir effectivement, on joue un énième Superman qui fait ce qu'il veut, qui est déjà connu, qui a déjà une reconnaissance ailleurs, etc. Donc l'idée de se faire une place dans le monde, à la fois dans le monde, la société, puis le monde des super-héros, ça c'est pas mal, hein. C'est un double but qu'on peut poursuivre si on joue longtemps en campagne à ce jeu. Donc c'est pas mal.
Et donc en fait pour vous finalement, le fait d'avoir joué des adolescents et des super-héros en devenir, ça a apporté quand même beaucoup à la fiction, à la dynamique, hein, aux histoires qu'on a pu vivre en fait.
Oui, c'est un peu ce qu'on disait là-dessus. Ouais, clairement, si t'enlèves cette partie-là du jeu, je pense que tu perds énormément de l'intérêt et on se retrouverait à faire des bêtes héros, comme disait Seb, lambda. Ah ben moi je fais Iron Man, moi je fais Superman et puis on va péter du méchant. Ouais. Bon là, on a le côté donc là plus comme disait Flo avec le teen movie tout ça. Bon, c'est pas un Breakfast Club non plus, mais ça peut être dans l'esprit quoi. Tu peux justement faire quelque chose dans ce style.
Complètement d'accord.
Flo.
Et je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que je me rappelle sur l'annonce du setting du jeu avant qu'on y joue. J'étais assez froid. Alors je laisse toujours sa chance au jeu quoi. Et là j'ai bien fait pour le coup. Jouer des super-héros adolescents, ça me faisait pas du tout envie comme ça, là, présenté comme ça, pas du tout. Et j'avais bien tort.
Comme quoi, il faut donner sa chance au jeu pour vérifier.
Oui, complètement.
Alors que moi, effectivement, j'étais fan du truc avant que d'y jouer, parce que étant fan notamment de la série Young Justice...
J'étais sûr que t'allais dire ça.
Je reconnais que quand il est sorti ce jeu-là, je me suis dit... il faut absolument que je l'achète. Après, ça voulait pas dire que c'était un bon jeu, hein, soyons clairs. Mais voilà.
T'as vu qu'ils vont faire un film live Teen Titans, quand même.
Je n'ai pas entendu cette phrase.
D'accord.
Seb, pour toi.
Là, on parlait de culture commune. Là aussi, c'est pareil. On a joué des scènes. Enfin, je sais pas si tu feras un résumé de la partie, mais on a joué des scènes où on était au lycée, des scènes où etc. On se promenait en ville. Bon, comme dans toute bonne série américaine. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est des choses autour, on a tous des références, donc c'est facile.
Moi,
c'est,
je suis assez déçu, on s'est pas réduit au diner pour, voilà, pour boire un café américain dégueu, et manger de la tarte.
C'est vrai. Ça, ça a manqué beaucoup.
Attends, j'ai insisté.
Mais vous êtes allé voir un match de football américain.
C'est vrai. Il y avait un match de foot américain, quand même.
Donc, on a...
Et l'attentat pendant le match de foot, ce qui est américain aussi.
Oui, voilà. Donc, on a, bah, le fait qu'on partage ça, je pense que pour le maître de jeu, c'est assez reposant, parce que finalement, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps à décrire, hein. On voit très bien le décor. Et du coup, on peut se concentrer, bah, sur les interactions, sur l'histoire, etc., etc. Ça, c'est bien aussi, hein, quand c'est facile.
Mais je pense que c'est le prérequis pour tout système motorisé par l'apocalypse, en fait. Oui. Il faut que ce soit que le setting se déroule sur un univers où c'est facile d'avoir des références, genre le post-apo pour celui de base.
On revient sur le côté jouer des adolescents.
Oui.
Or, on est tous des adultes à la table.
Ça dépend.
Ouais.
On va partir du principe que sur la carte d'identité,
voilà, visuellement,
sur la carte d'identité, en fait, on l'est tous. Est-ce que ça n'a pas été justement trop difficile de jouer des adolescents? Est-ce que ça n'a pas conduit à des comportements caricaturaux? Ou est-ce qu'au final, est-ce que vous avez vraiment joué des adolescents et pas plutôt des adultes?
Bon, j'ai pas trouvé. Moi. Je trouvais qu'on s'était plutôt fondu dans les personnages. Bon, après, comme disait Flo tout à l'heure pour son perso, à lui qui avait pas beaucoup d'âge mental a priori pour un robot, bon, c'était en dessous d'adolescent encore. Mais ouais, non, je vois pas. Pas de mon côté. Je pense que je me suis bien fondu dans le personnage. Et donc, je vois pas de blocage particulier.
Flo,
je pense que quand même, on leur a fait faire des choses qui sont peut-être pas à la portée de gamins de 15 ans.
Bah, c'est...
De quoi, mais ce sont des super-héros.
17 ans, ouais. 17 ans, c'est ça, les personnages?
15, je crois.
15 ans. Ouais, moins de 15, ouais.
15. Ouais. Oui, bah, après, parce qu'on a... Oui, effectivement. Parce que nous, on a un passif... Enfin, l'âge qu'on a maintenant... Bah, logiquement, tu déformes un petit peu, effectivement, comment tu joues avec le personnage.
Mais après, il y a aussi le fait qu'il y a une intrigue et que, bon, il faut bien la faire avancer
oui,
au bout d'un moment.
Aussi.
Et bon, si vraiment tu fais non, je joue le perso, j'ai pas ces idées-là. Bon, bah ok. Bah,
ouais.
Du coup, bah c'est voilà, la fin est pas résolue, le scénar avance pas et puis voilà.
Pour toi, Seb?
Non, moi je trouve qu'on n'a pas, on est resté. Enfin, moi j'avais déjà l'étrangeté à gérer, donc il fallait gérer l'étrangeté et l'adolescence, ça faisait beaucoup. Mais on n'a pas pris la place d'adulte. Hein, on s'est jamais déguisé en adulte, on n'a jamais fait des choses que feraient des adultes. Donc finalement, inconsciemment, on s'est quand même comporté comme des ados, hein.
Avec des super pouvoirs.
Avec des super pouvoirs.
Parfait. Et alors pour finir sur cette thématique de l'adolescence. Le jeu, lui, parle de l'image, de l'apparence et du conflit qu'il y a entre le semble-être et ce que l'on est réellement. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti au cours de des parties, par rapport à votre personnage?
Personnellement, à part le côté identité secrète, puisqu'on est des super-héros, mais à part ce léger côté-là, pas tant que ça, non. Après, c'est peut-être nous aussi, on s'est pas orienté à fond là-dessus, quoi, finalement.
Seb.
Sur l'image, moi j'avais choisi une apparence quand j'étais un super-héros très 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 différente de celle du... Du coup, il était vraiment méconnaissable. Donc là, de ce côté-là, je jouais vraiment la dichotomie. Il n'y a pas de différence. C'était vraiment ça ta question?
C'était en fait le jeu en fait parle de la différence entre ce que l'on semble être et qui l'on est vraiment.
D'accord.
Oui. Et est-ce que toi, tu l'as vraiment senti, cette thématique, ou pas du tout, en fait?
Bah, Flo, il t'a déjà répondu, oui, l'histoire. Le fait qu'on ait dit, on a des identités secrètes, parce qu'on aurait pu aussi faire le choix. Est-ce qu'on peut faire le choix de pas en avoir? C'est-à-dire, tout le monde sait.
A priori, c'est un choix, au départ, est-ce que vous avez une identité secrète ou pas? Même si le jeu s'appelle Masque et que, a priori, effectivement, on porte tous un masque, il n'y a aucune raison de pas avoir fait un Civil War et puis de déclarer, je suis Peter Parker, quoi.
Alors, c'est un choix, mais bon, je trouve que ça rajoute une dimension. L'identité secrète, hein. Pour moi, dans les jeux de super-héros, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très intéressant. Parce que du coup, tu joues sur deux tableaux. T'as la vie normale et après, t'as la vie super. Donc ça, c'est le mieux.
Pour toi, Flo?
Non, le côté identité secrète, j'ai pas senti que c'était vraiment axé là-dessus. Ça aurait pu, mais je sais pas, les différents choix qu'on a fait et la manière dont on a joué... Ça s'est pas vraiment développé a priori. Après, au niveau des mécaniques, le fait que pour certaines manœuvres, on s'appuie. En fait, vis-à-vis de mon personnage, c'était plus la normalité et le caractère monstrueux que je pouvais dont je pouvais donner l'image. Et donc certaines manœuvres qui s'appuient sur la caractéristique normale. Enfin, c'est plus cette dichotomie là plutôt que identité secrète et réelle pour moi qui a joué.
Alors une des choses qui est potentiellement importante dans le jeu, en tout cas qui est présentée comme étant un élément important du jeu, c'est l'influence des personnages qui peuvent avoir les uns sur les autres. L'avez-vous beaucoup utilisé ou pas du tout? Est-ce que ça a été quelque chose qui a effectivement été important dans nos parties, ce côté avoir de l'influence les uns sur les autres, faire varier les étiquettes et tout ça?
Je peux répondre très vite, hein, parce que j'avais le choix entre être hautain ou joyeux. Bon, si j'avais été joyeux, évidemment, j'aurais été un meilleur compagnon de jeu, mais là, j'avais choisi d'être hautain.
On a bien vu.
Et donc, voilà, donc c'était assez facile pour moi. Et donc, je donnais d'influence sur moi à personne. De ce fait-là, malheureusement, du coup, j'ai pas utilisé ce type de mécanisme. Bon, je trouvais qu'avec un personnage déjà un peu bizarre, c'était pas mal de se mettre un peu au banc du groupe, mais bon.
Pour ma part, vu que la personne qui avait de l'influence sur moi était un quatrième joueur qui n'est venu qu'au début, et la première partie, finalement, ça n'a pas trop servi. Les deux premières parties étaient là. D'accord, ça m'a pas marqué.
Bon.
Ouais, après, pas tant que ça. Enfin, ça a été plus rigolo à la création du perso, et ben, bizarrement, moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu plus gadget, et finalement, on s'en est pas tant servi. Alors, je pense que c'est plus ma faute, ou enfin, notre faute de manière générale, si on n'a pas forcé le trait là-dessus. Alors après, c'est peut-être le fait qu'on se connaisse un peu aussi et que du coup, on joue naturellement roleplay sur ce genre de partie-là, de facette-là, en fait, du fait d'avoir l'influence ou pas, directement ou indirectement. Mais ouais, ça n'a pas influencé énormément mon jeu, en tout cas.
Flo ?
Alors effectivement, je pense que durant le jeu, on n'a pas trop utilisé ces mécaniques-là. Par contre, je pense qu'il faut pas sous-estimer le support à la créativité que ça a représenté au début. Quand on a imaginé le setting, nos personnages, leurs relations...
Oui, mais enfin, la question, c'était juste, est-ce que pour nous, ça a été utile, ou on l'a joué, etc.
Oui, ça a été utile en ce sens qu'au début, la première session, si tu te rappelles, c'était quand même sympa d'imaginer de s'appuyer sur les feuillets.
Mais voilà. Dès qu'on a commencé à jouer, en fait, on s'en est pas du tout servi.
Si, quand même. Si, le fait que, notamment, ton personnage est une influence sur le mien, ça a servi, oui. Alors après, je me suis peut-être fait mes films tout seul, en imaginant la vie intérieure de mon perso. Hein, mais
voilà, ça a dû servir la première partie, finalement, mais après... Moi, j'ai plus l'impression que ça s'est essoufflé assez vite et que on est passé dessus plutôt rapidement.
A priori, c'est vrai que j'ai pas eu non plus l'impression que ça vous ait beaucoup servi et que même l'utilisation de la modulation des étiquettes était pas forcément une des plus évidentes. Notamment parce qu'effectivement, il y a eu aussi beaucoup, effectivement, de scènes, on va dire, roleplay entre vous. Et que des fois, c'était quand même, pour moi en tout cas, compliqué de traduire le roleplay qui avait été fait en mécanique de jeu sur le fait d'avoir dit à un personnage qu'il était plus normal et moins dangereux, par exemple. Sur certaines fois, c'était évident. Et d'autres fois, très franchement, c'était assez compliqué pour moi de retranscrire, j'allais dire, des phrases françaises en étiquette de masque, en fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de fois où probablement un œil extérieur... ou plus avisé, aurait peut-être dit « Ah, peut-être que là, il y a de la modulation d'étiquette. » Là où moi, effectivement, je l'ai laissé passer parce que c'était effectivement de l'enjeu entre personnages, quoi.
Non, mais il faut que ça serve il faut que ça serve le jeu, pas l'inverse. Il faut pas que le jeu serve la mécanique. Donc, ça a eu le mérite de donner des idées et d'être un support à la créativité au début, quand il s'est agi de créer les personnages et d'imaginer la situation de départ. Donc, ça a ce mérite-là. Et après, oui, bon, comme tu dis, c'est pas vraiment évident de faire coller la mécanique des états émotionnels et des relations en live avec ce qui se passe dans la partie, quoi. Et c'est peut-être pas une fin, enfin, je veux dire, c'est...
Ben, moi, j'ai l'impression que c'est enfin, je vais pas dire le cœur du jeu, mais c'est peut-être là où
c'est ce qu'aurait voulu l'auteur.
Ouais, je pense que c'est ce que voulait l'auteur. Entre quand on disait sur le la question tout à l'heure de entre le ce que je pense être et celui que je suis réellement, puisque par exemple on va prendre l'archétype du transformé, il se voit comme étant monstrueux, mais si au fur et à mesure des interactions sociales qu'il aurait avec les adultes ou avec les autres persos, ben les autres persos lui disent mais en fait t'es pas si monstrueux que ça et t'es finalement plutôt normal, en modulant ses étiquettes et en se retrouvant avec un plus 3 en normal et un moins 2 en monstrueux par exemple, lui il aurait une idée de son apparence comme étant monstrueux, sauf qu'en fait son soi intérieur qui est finalement ses étiquettes lui prouverait le contraire en fait, et que il est plutôt accepté par tout le monde en étant normal et pas si monstrueux que ça quoi. Et j'ai l'impression que effectivement l'auteur a cette volonté de jouer sur cette modulation d'étiquette, puisqu'en fait c'est pas le joueur qui le maîtrise, mais sont les autres qui vont lui changer ses étiquettes au fur et à mesure de la partie. Et donc là où il avait, alors je vais dire un petit peu un gros mot, mais optimisé au départ, bah toujours pareil, le transformer sur le côté monstrueux, si les autres en cours de partie lui font prendre conscience, ou en tout cas lui disent ben non, t'es pas si monstrueux que ça, mais t'es plutôt quelqu'un de normal, ben son personnage à la fin il va se retrouver avec bah oui une valeur de moins 2 en monstrueux, là où au départ il est parti avec un plus 3 par exemple quoi. Et son personnage devient complètement différent parce que sa grande force ne sera plus sa monstruosité, mais peut-être plus sa normalité quoi. Et c'est vrai que ça on l'a assez peu vu parce qu'on a assez peu bougé les étiquettes quoi.
On est un peu passé complètement à côté, tu veux dire. Oui. Après, c'est peut-être pas qu'à toi, enfin en tout cas pas qu'au MJ de gérer ça non plus, au vu des
feux. Non,
perso,
normalement, c'est effectivement.
Au personnage et au joueur d'essayer de l'intégrer dans le jeu.
Non, je pense que
donc c'est... si nous on l'a pas intégré, ben on l'a pas intégré. Voilà, c'est... mais le fait qu'il y ait une possibilité, on est d'accord. Mais c'est juste qu'on l'a pas joué.
En général, t'as le choix, c'est-à-dire que tu peux justement, tu peux accepter les changements d'état ou faire des tests, faire un test où t'as une chance de que ça se passe pas comme ça.
Mais en fait, dans toutes les parties qu'on a fait, la seule fois où c'est arrivé, c'est tout à l'heure, quand c'est le jeu qui
non, t'a... Non, c'est arrivé précédemment aussi.
On n'a pas bougé d'étiquette, c'était beaucoup.
Si, si. Moi, j'ai déplacé des curseurs vers du différent, justement.
Et tu l'as fait souvent?
Bah, c'est vrai que sur la première partie, je m'en rappelle.
C'est arrivé deux fois, oui. Mmh.
Mmh. Deux fois sur cinq parties, on n'a pas vraiment exploité à fond le système.
J'ai des manœuvres, enfin, dans le feuillet, transformé, il y a des manœuvres un peu pousse au crime.
D'accord.
Si tu veux, qui quand
tu les t'orientes là-dessus.
Quand tu les mobilises, c'est oh mon Dieu, regardez, il est horrible, voilà. Si tu veux. Mm. Et potentiellement. Et d'ailleurs, j'ai chopé des états émotionnels comme ça.
Mais donc c'est l'archétype qui est orienté plutôt là-dessus alors.
Ouais.
Mm. Ouais, suite aussi à votre intrusion dans le laboratoire secret au cours de la première partie, où effectivement, suite au carnage que avait pu faire le personnage transformé. Où tu avais fait la morale justement au personnage transformé qui avait accepté d'avoir une modulation d'étiquette parce que effectivement tu l'avais.
Ah oui, c'est comme ça que j'avais gagné l'influence. Ouais. Mmh. Bah c'est le seul moment finalement où j'ai gagné l'influence sur quelqu'un. Ouais. Mmh.
Comme là on a juste un petit peu parlé de la fiction, je pense sur ce côté avec le laboratoire secret. Mmh. Sur ces 5-6 séances qu'on a pu jouer, quelle est la scène que vous avez préférée ou celle qui vous revient en mémoire? Ou aucune.
Non, je pense que le petit voyage temporel, ça c'était
ça c'était bien. Ouais.
Ça c'est pas vraiment une scène, mais là bon.
Ah bah si, on était.
Mais bon, c'est une scène qui a duré un petit moment quand même.
Ah bah voilà. Oui.
Mais du coup là, là pour le coup, c'est vraiment une utilisation de bien vue de ta part des mécanismes, puisque je bricole un truc extraterrestre qui marche pas. Et enfin qui marche mais avec un contre-coup, et le contre-coup c'est qu'on est projeté dans le futur, ça se raccroche à l'histoire, donc ça c'est plutôt c'était moi je trouve que c'est vraiment
bien. Ce qui est bien c'est que comme il a, ça s'est intercalé entre deux sessions, il a eu le temps d'y réfléchir.
Oui.
Le bougre.
Oui.
Et du coup
ça,
forcément
c'est parce qu'il a des heures de vol. Donc
et après la scène non, j'ai pas du tout regardé Heroes. Enfin, moi, ça m'a.
Non, c'est pas ma référence. Ça.
Après, voilà.
En l'occurrence, c'est pas ma référence.
Oui, moi, je l'aurais pris comme une insulte quand même là, mais bon.
Un peu.
Non, mais de toute façon,
alors que ma référence était Batman Beyond. Mais...
Ouais, c'est d'accord. Pareil, quand même.
Ah ouais, c'est mieux. Ouais. J'avoue là, ok, je me cligne. Et bon, après, de toute façon, le thème a tellement été traité, c'est impossible.
Ça, c'est...
Ah oui, non, mais...
Je veux dire, c'est assumé que ça s'inspire de ça, donc voilà.
Ah oui, mais c'est évident, enfin, je veux dire, de toute façon, c'est difficile, ouais. Et c'est voire impossible de créer à partir de rien, donc...
Mais bien vu, cette scène était sympa, oui. Sinon, il y avait la scène avec le bocal, la cuve.
Oui, mais dans le labo secret,
ouais. Ouais. Avec les espèces de climax que tu faisais à la fin des parties. Et genre, on s'arrête juste à... Tu vois, juste avant la révélation.
Si, ça si, c'est parce qu'il était 1h du matin et que tout le monde était en train à moitié de dormir, ça.
Ouais, non, mais j'ai trouvé que ça tombait à chaque fois.
Oui, bah oui.
Non, il regarde Netflix, là, ça se voit.
Previously on Mask.
Ça, ça marche bien.
Ouais.
Alors, si on regarde les illustrations ou que vous avez pu voir de personnages, etc., on est plutôt sur des persos fun. L'univers aussi dans le bouquin est plutôt assez lumineux. Et justement, pour vous, c'est un jeu qui se joue toujours sur un ton léger. Ça sera toujours fun, on va dire, de jouer. Ou est-ce que c'est un jeu qui peut se jouer de manière beaucoup plus sombre et avoir abordé des thématiques peut-être plus dures et plus complexes?
Bon, je pense que ça dépend entièrement des joueurs, là, pour le coup... Enfin, c'est vrai que quand tu regardes les chara-design déjà sur les feuilles de perso, bon, qui sont très jolies en plus au demeurant, bon, c'est clairement plus pas enfantin, mais ça fait plus dessin animé du samedi matin que Dark Knight a cassé des mâchoires, quoi. Donc effectivement, je pense que on est plus sur le côté rigolo, etc. Mais bon, ça dépend, je pense, entièrement des joueurs et du MJ. Enfin, je sais pas si toi tu serais vu partir sur un truc ultra sérieux là-dessus, ultra. Ouais. Je sais pas si c'est aussi amusant en JDR à jouer sur cet univers-là et ce système-là. On aurait voulu faire ça, on aurait fait du Apocalypse World, quoi. Avec du post-apo. Ouais. Ah, pas du super-héros, quoi. Bon, après, c'est que mon avis.
Hein. Ouais. De notre côté, on n'était pas quand même dans la parodie. Hein. Enfin, c'était pas. Le scénar, il n'était pas spécialement marrant. Hein. Enfin, je veux dire, bon, il y a quand même des, on voit qu'il y a de la manipulation politique. Bon, nous, on était dans un futur qui était un futur, on va dire, très dystopique.
On s'est pas pris au sérieux non plus à 100% en permanence.
C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, moi, j'ai pas trouvé que ça faisait comics âge d'or, quoi. Tu vois, c'est pas le truc tout le monde a le sourire par toutes les pages, etc. C'est ouais, du comics actuel, quoi, on va dire. Avec des côtés qui peuvent être un peu pas sinistres, mais enfin, un peu sombres, quoi. Donc ouais, je pense qu'on peut sans problème aller d'un côté à l'autre. Hein.
Flo ?
Oui, mon ressenti, c'était que c'était à demi sérieux. Quoi. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire il y a de la déconne, etc. C'est la Joss Whedon touch, un peu. On rigole et puis après il se passe un truc horrible. Ta ta ta. Après sur l'apparence, sur les dessins et tout ça, des feuillets un peu cartoonesques, etc. Bah ça oriente un petit peu, mais bon, ça fait qu'orienter un petit peu. Et d'ailleurs, si derrière on cale quelque chose de bien noir et tout ça, à la limite, ça n'aura que plus d'impact, je pense.
C'est vrai que je voulais un petit peu alterner les phases, bah, justement un peu fun. Et sympathique ou léger, on va dire, avec des phases un peu plus justement sombres. Et puis bon, vous aussi, vous avez participé à ça, notamment avec la mamie lors de cette séance et son bras robotique.
Je n'ai aucun souvenir de cette scène.
Elle n'a pas existé alors. Mais c'est vrai que c'était... Je me voyais mal faire que du léger et du fun. J'avais aussi envie de mettre effectivement une petite touche... un peu plus sombre, un peu plus...
De toute façon, je pense que tu peux pas faire à fond l'un ou à fond l'autre, quoi.
Bon, en tout cas, moi, je pense pas en être capable sur ce
jeu-là. Mais c'est pas que toi, je pense que tu... Excuse-moi le gros, mais tu te ferais chier faire du 100%, c'est la rigolade et tout en permanence. Bon, c'est marrant, mais... c'est marrant une séance.
C'est tout RPG, sinon.
Ouais, voilà, ou c'est marrant une séance, ou c'est marrant deux heures, mais après... et puis faire du 100% dark, etc., c'est peut-être pas non plus... dans notre esprit non plus, quoi.
Ce jeu s'adresse à quel type de joueurs, selon vous? Des débutants, des confirmés, des gens qui ont une culture du super-héros?
Non, je sais pas.
Flo.
Sincèrement, je pense pas qu'il soit particulièrement difficile d'accès. Bon, je vais encore faire l'apologie du système Apocalypse, donc
t'as reçu ton chèque ce mois-ci.
Bah, là, t'es bien parti.
Non, mais je m'entends parler, ça fait peur, mais bon, je vous assure qu'il y a, il y a pas de
capitaliste.
Bref, non, mais c'est simple, je trouve. Donc, justement, je me demande si un jeu,
une initiation au jeu de rôle
moins récent, oui, voilà,
ce serait pas mal.
Ouais, bah, à mon avis, ça passe mieux que sur du, je sais pas moi, du JRTM quoi, tu vois.
Ouais.
Bon, c'est une édition. Là, là ouais, ça fait pas mal.
Non, mais il faut fournir les machines à calculer, c'est tout.
Ouais.
J'aime bien parce que fiche. D'un côté de la balance, tu mets un poussin, de l'autre, tu mets un putain d'éléphant, quoi. Mais sinon, ouais. Effectivement, ouais, du JRTM. Non, moi je pense que c'est ouais en initiation pour jeu de rôle, ça doit être pas mal aussi. Donc soit pour du débutant ou à peu près n'importe qui. Après c'est vrai que peut-être un vieux de la vieille qui jure que par du ADD ou du DD seconde édition, ça va peut-être pas trop lui plaire. Mais après c'est comme dit Flo par rapport au système Apocalypse quand même, il est assez permissif pour que des gens justement qui aiment le jeu de rôle un petit peu approfondi, faire vraiment du roleplay à donf, etc., soit attiré par le système et par le jeu, et d'autre part, soit assez guidé quand même au niveau feuille de perso, ce qu'on disait au départ, pour qu'un débutant puisse se retrouver, soit pas trop perdu au milieu des vieux de la vieille, si j'ose dire.
C'est un autre,
je dirais un débutant en JDR, oui, mais à condition qu'il ait cette culture des comics. C'est-à-dire, sinon, pour lui, ça va pas du tout lui parler, hein. Quand il va lire Manière étrange, etc., il va dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon personnage? Donc, quelqu'un qui a aucune idée de ce que c'est un super-héros, donc voilà.
Mais ça existe, ça?
Mais je pense
que mais moi, tu l'amènes voir un film, ou tu lui montres Avengers, ou n'importe quoi d'autre, c'est
bon. Je pense que il y en a quand même quelques-uns, et, notamment dans les joueurs de jeux de rôle, je vous assure que des gens qui pratiquent le jeu de rôle de super-héros, il y en a pas tant que ça. Et entre autres parce que forcément ils savent pas quoi en faire ou ça les intéresse pas ou finalement donc bon voilà, mais après effectivement c'est la technique, c'est pas limitant, hein.
Moi c'est vrai que les jeux de rôle de super-héros j'en ai fait un peu, un paquet même, j'en ai eu même beaucoup, et ce qui à chaque fois moi me bloquait ou très souvent c'était les échelles de puissance en fait, et comment rendre un groupe équilibré. Comment ne pas avoir justement un Superman et un Batman ensemble, et comment justifier que Superman défonce pas Batman avec ses yeux thermiques juste comme ça parce qu'il en a envie, et derrière quelle adversité mettre. Et c'est vrai que c'était pour moi toujours hyper compliqué.
Problème d'équilibrage.
Ouais, un vrai problème d'équilibrage dans les super pouvoirs, puis ensuite quand on avait créé le groupe dans les scénarios, soit avoir des scénarios hyper faciles, et le fait d'avoir un personnage où on lui bloque son super pouvoir juste parce que ça nous arrange pour le scénar, ok, on lui fait une fois. Si à chaque scénar on lui bloque son super pouvoir, à ce moment-là, bon ben, fallait pas l'autoriser au départ, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, dans Mask, j'ai pas du tout ressenti ça. Je me suis pas posé la question de savoir, oulala, j'ai un transformé ou j'ai un étrange, est-ce qu'ils vont me pourrir mes scénarios? Parce que d'abord, les scénarios s'écrivaient ensemble, mais j'avais pas le problème d'équilibrage, et en plus, j'avais pas cette question de, ben, mon scénario peut être pourri par un personnage parce que il lit les pensées de tout le monde, ou il voit dans le futur, ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est vrai que c'était pour moi un vrai plaisir de pouvoir jouer en tant que MJ, mais en tout cas de jouer à un jeu de super-héros où j'avais pas cette contrainte de gérer l'équilibrage des pouvoirs et de jouer à des niveaux très très différents, quoi.
Ouais, finalement, ça veut dire que les archétypes sont bien équilibrés.
Ils sont bien faits, et surtout, c'est l'enjeu n'est pas la puissance, justement.
Oui.
C'est pas ça. On n'est pas là pour dire effectivement qui est plus fort, Batman et Superman. C'est
non, parce que ça, on a déjà la réponse.
Et on le sait tous, c'est Batman le meilleur.
Bien sûr. Voilà.
Donc bah oui, c'est
mais
évident.
Mais non, c'est Ant-Man. Mais
voilà, normalement, il y en a quelques-uns qui ont fait une crise cardiaque, mais bon.
C'est possible. Et alors, comme là, je parlais de moi, MJ, étant très égocentrique. Quelle place vous avez trouvé qui prenait ce MJ dans nos parties?
Moi, j'ai pas pu en placer une. Hein. C'était une horreur. Non, moi, justement, qui ai tendance à parler beaucoup et à prendre de la place en termes de joueur, moi, j'étais tranquille. Bah, tu t'es pas imposé plus que ça. On a pu dire ce qu'on voulait au moment où on voulait. C'est pas spécialement dirigiste. On est parti vers les pistes qu'on souhaitait explorer. Tu nous as jamais mis dans un couloir avec le classique une porte, un monstre, un trésor, hein, comme on dit. Donc bon, bah, comme toujours, moi je la liberté est au rendez-vous. Quel beau slogan.
T'as posé la question en parlant de toi, la troisième personne. Je suis choqué. Faut que je m'en remette. Attends, je réfléchis.
Pas de problème, Seb.
Oui, mais finalement, est-ce que c'est pas la force de ce jeu? C'est que finalement, vous faire des scénarios de comics, c'est très difficile. On va rien faire d'original. Tout a déjà été dit, écrit. Donc voilà. Et finalement, l'intérêt de jouer des super-héros, c'est les relations entre les personnages. Et du coup, le jeu, il est basé sur ça. Donc c'est pour ça aussi que ça nous a intéressé, c'est que finalement, on a interagi, on a mené une enquête, on a fait des choses, etc. Et le scénario lui-même, il passait presque au second plan, hein. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est un peu ça. Donc finalement, le jeu, bah, le système colle hyper bien à ça. Alors que bon, effectivement, on n'a pas mené une quête où il fallait jeter un anneau dans un truc. Enfin, vous voyez de quoi je me parle. Mais voilà, donc je pense que le jeu colle parfaitement au thème, en fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu l'intérêt du système Apocalypse, je suis pas aussi clairvoyant que Flo, que j'avais pas vu jusque-là, grâce à ce jeu.
Non, mais Flo, il est pas clairvoyant, il est payé.
Ah, voilà, pardon, excuse-moi.
C'est
le mot que vous cherchez. Voilà.
D'ailleurs, ça m'étonne que tu t'es pas interrompu pour dire, mais c'est grâce au système Apocalypse. Voilà.
Ben, c'est pas moi qui l'ai dit.
Ben oui. C'est là, il est fort, quand même. Il est payé, mais c'est moi qui fais la pub, t'as vu.
Donc pour toi, Flo, la place du MJ?
C'est d'animer la partie, de relancer quand il se passe rien, de fournir le terreau aux idées et à la créativité pour qu'elles s'expriment. C'est pas comment dire, c'est pas forcément d'avoir une vision de l'histoire de A à Z, comment elle va être et vers là où ça va aller, mais c'est de savoir inciter, de savoir de jauger ce dont les joueurs ont envie, qu'est-ce qu'apparemment ils ont envie de voir se passer dans la partie, et ben du coup il faut les exaucer. Voilà, je pense que c'est ça la place justement du MJ Apocalypse.
Il a remplacé encore.
Gagne 200 balles. Allez,
là je pense qu'au niveau du chèque.
Ah ouais, les royalties.
Ça va sans décoeur.
Ça passe la taille de la baraque, hein, tu sais combien il l'a payé maintenant.
C'est sûr.
Et alors, nous on a joué donc plusieurs séances. Vous pensez qu'on peut le jouer facilement en one shot, ou bien c'est nécessaire de le jouer en campagne pour alors pour deux choses en fait, pour bien être satisfait de l'histoire et ou pour bien prendre en main les mécaniques.
One shot pourquoi pas, mais sur enfin one shot entre guillemets quoi, sur plusieurs parties. Donc pas forcément une campagne, mais faire quelque chose qui dure sur même moins long que ce qu'on a fait nous, mais 2-3 parties par exemple. Je pense pour notamment pour des joueurs qui auraient, comme on disait tout à l'heure, qui seraient plutôt débutants, peut-être déjà pour s'habituer un peu au système et pour prendre en main un petit peu tout ça. Mais ouais, on aurait pu, je pense, nous faire quelque chose sur 2-3 parties, pas forcément faire durer quoi. Ça serait bien passé aussi. Je vois pas, pour moi, il y a pas de raison que ça bloque à ce niveau-là. Après, sur une campagne, oui, pourquoi pas aussi. Mais après, on n'est pas dans ce cas-là pour l'instant, donc on en reparle dans 4 ou 5 ans quand on aura fini le. Non, c'est pas ça. Bon, pardon.
Flo?
Ah ben, les deux sont possibles, je pense. Après, pour un one shot, je pense que contrairement au principe du truc, le MJ a intérêt à avoir un scénario au sens traditionnel du terme, et peut-être que la partie se déroulerait pas comme ça, avec création du setting de manière collaborative, etc. Par contre, à partir du moment où on fait la création du setting, des personnages, leurs relations, etc. Naturellement, on a envie de jouer au moins une deuxième fois pour, parce qu'en général, ça prend la première session et on finit cette première session par une demi-heure, une heure de jeu avec ce qu'on vient de créer. Voilà. Mais du coup, ouais, t'as forcément, comme c'est toi qui l'as créé, t'as envie de jouer avec en fait. C'est un peu le sentiment qu'on a quand on est MJ, et on le ressent en étant joueur, en fait. Parce qu'on a créé une partie de cet univers, et donc on a envie de le voir s'animer, et on a envie de voir les histoires qui vont aller avec, quoi.
Pourquoi Seb?
Je dirais, je suis d'accord, jouer une seule fois, c'est presque dommage, ne serait-ce que pour explorer toutes les potentialités des personnages, les relations entre les personnages, etc. Une fois, ça me paraît très court, hein, parce que, mine de rien, ces personnages, riches, hein, on l'a pas dit, bon, la feuille de personnage, elles font 4 pages, hein, quand même, donc, c'est effectivement. Donc, une fois, ça paraît, c'est un peu dommage.
Après toutes ces séances qu'on a pu faire avec ce jeu, vous avez toujours envie de poursuivre l'aventure? Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment résolu de choses pour être satisfaisant, ou est-ce qu'en fait ça a permis de créer en fait du matériel fictionnel qui permet de continuer à jouer derrière?
Moi, je veux continuer. Fiche. Pareil.
Sam, Flo.
Oui, je pense que on a noué quelques nœuds d'intrigue, quoi. Il faudrait les dénouer maintenant. Il faudrait,
Faut qu'on ait le dernier numéro du comic.
Il faut qu'on lui pète la gueule à ce connard de mes couilles, là. Voilà.
Pour une fois, c'est pas moi qui joue, donc c'est cool. Voilà. C'est bien.
C'est bien.
Il n'y a pas dit Apocalypse cette fois-ci.
Ouais, c'est clair.
Apocalypse! De son euro. Donc, la dernière question, rituelle du podcast.
Ouais.
C'est quoi votre dernier mot?
Raclette.
Ah, du coup, gratin dauphinois.
Ça fait deux. Ouais, ça fait
pas comme. Pardon. Et ouais. Ah oui, bah, gratin.
Ah, c'est bien.
Eh bien, ma foi, Apocalypse.
D'accord.
Ben, sur ces derniers mots, merci à vous encore une fois d'avoir participé à ce podcast.
Merci de nous avoir invités. C'est un peu trop solennel, mais bon.
Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, bien sûr. Comme vous l'aurez compris, Masque est un jeu qu'on apprécie énormément à la table, qu'on prend plaisir à jouer, même si on s'aperçoit que l'utilisation de l'influence est très minime chez nous. Ça ne nous empêche pas de nous amuser, d'avoir une fiction qui est intéressante, et ça montre aussi que, en fonction des joueurs qui sont à la table, le jeu peut avoir une dimension complètement différente. Là, on s'est concentré sur le groupe, sur ses interactions, sur l'histoire de ce groupe, là où, avec d'autres, on pourrait tout à fait s'interroger plus sur la place de chacun dans le groupe, tout en ne négligeant pas, bien évidemment, la fiction. Et ça rend vraiment intéressant le jeu, parce que vous pourrez tout à fait jouer le fait de s'interroger sur qui on est véritablement en tant que super-héros, quelle est notre place dans l'univers, ou bien le jouer comme étant un groupe de super-héros qui va essayer de trouver sa place parmi les autres générations, mais surtout qui va vivre des aventures de super-héros. Et donc, vous l'avez compris, nous on apprécie énormément ce jeu, moi je vous le recommande, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain retour d'expérience, j'espère qu'il vous a plu celui-ci. N'hésitez pas à venir le commenter, à le partager, à nous rejoindre sur notre Discord pour discuter des différentes émissions, mais également avec la communauté. Et moi, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une excellente journée, et d'être heureux en JDRI. Bye bye tout le monde !